Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce dimanche dans À voix haute, j'ai le grand plaisir de replonger dans un grand classique de la littérature française du XXe siècle, puisqu'il s'agit aujourd'hui de lire les premières pages du Grand Maulne d'Alain Fournier, paru en 1913 et toujours bien sûr disponible en poche aujourd'hui. Chapitre 1er, le pensionnaire. Il arriva chez nous un dimanche de novembre 1890 et quelques. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans et nous n'y reviendrons certainement jamais. Nous habitions les bâtiments du cours supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, que j'appelais Monsieur Serel comme les autres élèves, il dirigeait à la fois le cours supérieur, où l'on préparait le brevet d'instituteur, et le cours moyen. Ma mère faisait la petite classe. Une longue maison rouge avec 5 portes vitrées, sous des vignes vierges, à l'extrémité du bourg. Une cour immense avec préaux et buanderies qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail. Sur le côté nord, la route où donnait une petite grille, et qui menait vers la gare à 3 kilomètres. Au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs. Tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie. Demeure d'où partir et où revinrent se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures. Le hasard des changements, une décision d'inspecteur ou de préfet nous avait conduits là. Vers la fin des vacances, il y a bien longtemps, une voiture de paysans qui précédait notre ménage nous avait déposé ma mère et moi devant la petite grille rouillée. Des gamins qui volaient des pêches dans le jardin s'étaient enfuis silencieusement par les trous de la haie. Ma mère, que nous appelions Milly, et qui était bien la ménagère la plus méthodique que j'ai jamais connue, était entrée aussitôt dans les pièces remplies de paille poussiéreuse. Et tout de suite, elle avait constaté avec désespoir, comme à chaque déplacement, que nos meubles ne tiendraient jamais dans une maison si mal construite. Elle était sortie pour me confier sa détresse. Tout en me parlant, elle avait essuyé doucement avec son mouchoir ma figure d'enfant noircie par le voyage. Puis, elle était rentrée faire le compte de toutes les ouvertures qu'il allait falloir condamner pour rendre le logement habitable. Quant à moi, coiffée d'un grand chapeau de paille à rubans, j'étais restée là, sur le gravier de cette cour étrangère, à attendre, à fureter petitement autour du puits et sous le hangar. C'est ainsi du moins que j'imagine aujourd'hui notre arrivée. Car aussitôt que je veux retrouver le lointain souvenir de cette première soirée d'attente dans notre cour de Sainte-Agathe, déjà ce sont d'autres attentes que je me rappelle. Déjà, les deux mains appuyées aux barreaux du portail, je me vois épiant avec anxiété quelqu'un qui va descendre la grand-rue. Et si j'essaie d'imaginer la première nuit que je dus passer dans ma mansarde, au milieu des greniers du premier étage, déjà, ce sont d'autres nuits que je me rappelle. Je ne suis plus seule dans cette chambre. Une grande ombre inquiète et amie passe le long des murs et se promène. Tout ce paysage paisible, l'école, le champ du Père Martin avec ses 3 noyers, le jardin des 4 heures envahi chaque jour par des femmes en visite, est à jamais, dans ma mémoire, agité, transformé par la présence de celui qui bouleversa toute notre adolescence et dont la fuite même ne nous a pas laissé de repos. Nous étions pourtant depuis 10 ans dans ce pays lorsque Maulne arriva. J'avais 15 ans. C'était un froid dimanche de novembre, le premier jour d'automne qui fit songer à l'hiver. Toute la journée, Milly avait attendu une voiture de la gare qui devait lui apporter un chapeau pour la mauvaise saison. Le matin, elle avait manqué la messe, et jusqu'au sermon, assis dans le chœur avec les autres enfants, j'avais regardé anxieusement du côté des cloches pour la voir entrer avec son chapeau neuf. Après midi, je dus partir seule à Vêpres. « D'ailleurs, me dit-elle pour me consoler, en brossant de sa main mon costume d'enfant, même s'il était arrivé ce chapeau, il aurait bien fallu sans doute que je passe mon dimanche à le refaire. » Souvent, nos dimanches d'hiver se passaient ainsi. Dès le matin, mon père s'en allait au loin, sur le bord de quelque étang couvert de brume, pêcher le brochet dans une barque. Et ma mère, retirée jusqu'à la nuit dans sa chambre obscure, rafistolait d'humbles toilettes. Elle s'enfermait ainsi de crainte qu'une dame de ses amies, aussi pauvre qu'elle mais aussi fière, vînt la surprendre. Et moi, les vêpres finies, j'attendais, en lisant dans la froide salle à manger, qu'elle ouvrit la porte pour me montrer comment ça lui allait. Ce dimanche-là, quelque animation devant l'église me retint dehors après vêpres. Un baptême sous le porche avait attroupé des gamins. Sur la place, plusieurs hommes du bourg avaient revêtu leur vareuse de pompiers. Et les faisceaux formés, transis et battant la semelle, ils écoutaient Boujardon, le brigadier, s'embrouiller dans la théorie. Le carillon du baptême s'arrêta soudain, comme une sonnerie de fête qui se serait trompée de jour et d'endroit. Boujardon et ses hommes, l'arme en bandoulière, emmenèrent la pompe au petit trot, et je les vis disparaître au premier tournant, suivis de quatre gamins silencieux, écrasant de leurs grosses semelles les brindilles de la route givrée où je n'osais pas les suivre. Dans le bourg, il n'y eut plus alors de vivant que le café Daniel, où j'entendais sourdement monter puis s'apaiser les discussions des buveurs. Et frôlant le mur bas de la grande cour qui isolait notre maison du village, j'arrivais, un peu anxieux de mon retard, à la petite grille. Elle était entr'ouverte et je vis aussitôt qu'il se passait quelque chose d'insolite. En effet, à la porte de la salle à manger, la plus rapprochée des cinq portes vitrées qui donnaient sur la cour, une femme aux cheveux gris, penchée, cherchait à voir au travers des rideaux. Elle était petite, coiffée d'une capote de velours noir à l'ancienne mode. Elle avait un visage maigre et fin, mais ravagé par l'inquiétude, et je ne sais quelle appréhension à sa vue m'arrêta sur la première marche devant la grille. « Où est-il passé, mon Dieu ? » disait-elle à mi-voix. « Il était avec moi tout à l'heure. Il a déjà fait le tour de la maison. Il s'est peut-être sauvé. » Et entre chaque phrase, elle frappait au carreau trois petits coups à peine perceptibles. Personne ne venait ouvrir à la visiteuse inconnue. Milly, sans doute, avait reçu le chapeau de la gare et, sans rien entendre, au fond de la chambre rouge, devant un lit semé de vieux rubans et de plumes défrisées, elle cousait, décousait, rebâtissait sa médiocre coiffure. En effet, lorsque j'eus pénétré dans la salle à manger, immédiatement suivie de la visiteuse, ma mère apparut tenant à deux mains sur sa tête des fils de laiton, des rubans et des plumes qui n'étaient pas encore parfaitement équilibrés. Elle me sourit de ses yeux bleus fatigués d'avoir travaillé à la chute du jour et s'écria « Regarde, je t'attendais pour te montrer ». Mais apercevant cette femme assise dans le grand fauteuil au fond de la salle, elle s'arrêta déconcertée. Bien vite, elle enleva sa coiffure et durant toute la scène qui suivit, elle la tint contre sa poitrine, renversée comme un nid dans son bras droit replié. La femme à la capote, qui gardait entre ses genoux un parapluie et un sac de cuir, avait commencé de s'expliquer, en balançant légèrement la tête et en faisant claquer sa langue comme une femme en visite. Elle avait repris tout son aplomb. Elle eut même, dès qu'elle parla de son fils, un air supérieur et mystérieux qui nous intrigua. Ils étaient venus tous les deux en voiture, de la Ferté d'Angillon, à 14 kilomètres de Sainte-Agathe. Veuve, et fort riche à ce qu'elle nous fit comprendre, elle avait perdu le cadet de ses deux enfants, Antoine, qui était mort un soir au retour de l'école pour s'être baigné avec son frère dans un étang malsain. Elle avait décidé de mettre l'aîné, Augustin, en pension chez nous pour qu'il pût suivre le cours supérieur. Et aussitôt, elle fit l'éloge de ce pensionnaire qu'elle nous amenait. Je ne reconnaissais plus la femme aux cheveux gris que j'avais vue courbue devant la porte une minute auparavant, avec cet air suppliant et hagard de poule qui aurait perdu l'oiseau sauvage de sa couvée. Ce qu'elle contait de son fils avec admiration était fort surprenant. Il aimait à lui faire plaisir et parfois il suivait le bord de la rivière, jambes nues, pendant des kilomètres, pour lui rapporter des œufs de poule d'eau, de canards sauvages perdus dans les ajoncs. Il tendait aussi des nasses. L'autre nuit, il avait découvert dans le bois une faisane prise au collet. Moi qui n'osais plus rentrer à la maison quand j'avais un accroc à ma blouse, je regardais Milly avec étonnement. Mais ma mère n'écoutait plus. Elle fit même signe à la dame de se taire, et déposant avec précaution son nid sur la table, elle se leva silencieusement comme pour aller surprendre quelqu'un. Au-dessus de nous, en effet, dans un réduit où s'entassaient les pièces d'artifice noircies du dernier 14 juillet, un pas inconnu, assuré, allait et venait, ébranlant le plafond, traversait les immenses greniers ténébreux du premier étage et se perdait enfin vers les chambres d'adjoints abandonnées où l'on mettait sécher le tilleul et mûrir les pommes. Déjà, tout à l'heure, j'avais entendu ce bruit dans les chambres du bas, dit Milly à mi-voix, et je croyais que c'était toi, François, qui étais rentré. Personne ne répondit. Nous étions debout tous les trois, le cœur battant, lorsque la porte des greniers qui donnait sur l'escalier de la cuisine s'ouvrit. Quelqu'un descendit les marches, traversa la cuisine et se présenta dans l'entrée obscure de la salle à manger. « C'est toi, Augustin ?» dit la dame. C'était un grand garçon de 17 ans environ. Je ne vis d'abord de lui, dans la nuit tombante, que son chapeau de feutre paysan coiffé en arrière et sa blouse noire sanglée d'une ceinture comme en portent les écoliers. Je pus distinguer aussi qu'il souriait. Il m'aperçut et, avant que personne eût pu lui demander aucune explication, « Viens-tu dans la cour ?» dit-il. J'hésitai une seconde, puis, comme Milly ne me retenait pas, je pris ma casquette et j'allai vers lui. Nous sortîmes par la porte de la cuisine et nous allâmes au préau, que l'obscurité envahissait déjà. À la lueur de la fin du jour, je regardais, en marchant, sa face anguleuse au nez droit, à la lèvre duvetée. « Bien, dit-il, j'ai trouvé ça dans ton grenier. Tu n'y avais donc jamais regardé ?» Il tenait à la main une petite roue en bois noirci. Un cordon de fusée déchiquetée courait tout autour. Ça avait dû être le soleil ou la lune au feu d'artifice du 14 juillet. « Il y en a deux qui ne sont pas partis. Nous allons toujours les allumer, » dit-il d'un ton tranquille et de l'air de quelqu'un qui espère bien trouver mieux par la suite. Il jeta son chapeau par terre et je vis qu'il avait les cheveux complètement ras comme un paysan. Il me montra les deux fusées avec leurs bouts de mèche en papier que la flamme avait coupé, noirci puis abandonné. Il planta dans le sable le moyeu de la roue, tira de sa poche, à mon grand étonnement car cela nous était formellement interdit, une boîte d'allumettes. Se baissant avec précaution, il mit le feu à la mèche, puis, me prenant par la main, il m'entraîna vivement en arrière. Un instant après, ma mère, qui sortait sur le pas de la porte avec la mère de Maulne, après avoir débattu et fixé le prix de pension, vit jaillir sous le préau, avec un bruit de soufflet, deux gerbes d'étoiles rouges et blanches. Et elle put m'apercevoir l'espace d'une seconde, dressée dans la lueur magique, tenant par la main le grand gars nouveau venu et ne bronchant pas. Cette fois encore, elle n'osa rien dire. Et le soir au dîner, il y eut, à la table de famille, un compagnon silencieux qui mangeait, la tête basse, sans se soucier de nos trois regards fixés sur lui.
À voix haute, Meredith Ledez.
Chapitre 2, après 4 heures. Je n'avais guère été jusqu'alors courir dans les rues avec les gamins du bourg. Une coxalgie dont j'ai souffert jusque vers cette année 1890 et quelques m'avait rendu craintif et malheureux. Je me vois encore poursuivant les écoliers alertes dans les ruelles qui entouraient la maison en sautillant misérablement sur une jambe. Aussi ne me laissait-on guère sortir. Et je me rappelle que Milly, qui était très fière de moi, me ramena plus d'une fois à la maison avec force taloche pour m'avoir ainsi rencontrée, sautant à cloche-pied, avec les garnements du village. L'arrivée d'Augustin Maulne, qui coïncida avec ma guérison, fut le commencement d'une vie nouvelle. Avant sa venue, lorsque le cours était fini à 4 heures, une longue soirée de solitude commençait pour moi. Mon père transportait le feu du poêle de la classe dans la cheminée de notre salle à manger, et peu à peu les derniers gamins attardés abandonnaient l'école refroidie où roulaient des tourbillons de fumée. Il y avait encore quelques jeux, des galopades dans la cour, puis la nuit venait. Les deux élèves qui avaient balayé la classe cherchaient sous le hangar leurs capuchons et leurs pèlerines, et ils partaient bien vite, leur panier au bras, en laissant le grand portail ouvert. Alors, tant qu'il y avait une lueur de jour, je restais au fond de la mairie, enfermé dans le cabinet des archives plein de mouches mortes, d'affiches battant au vent, et je lisais assis sur une vieille bascule auprès d'une fenêtre qui donnait sur le jardin. Lorsqu'il faisait noir, que les chiens de la ferme voisine commençaient à hurler et que le carreau de notre petite cuisine s'illuminait, je rentrais enfin. Ma mère avait commencé de préparer le repas. Je montais 3 marches de l'escalier du grenier. Je m'asseyais sans rien dire et la tête appuyée au barreau froid de la rampe, je la regardais allumer son feu dans l'étroite cuisine où vacillait la flamme d'une bougie. Mais quelqu'un est venu qui m'a enlevé à tous ces plaisirs d'enfant paisible. Quelqu'un a soufflé la bougie qui éclairait pour moi le doux visage maternel penché sur le repas du soir. Quelqu'un a éteint la lampe autour de laquelle nous étions une famille heureuse à la nuit, lorsque mon père avait accroché les volets de bois aux portes vitrées. Et celui-là, ce fut Augustin Maulne, que les autres élèves appelèrent bientôt le grand Maulne. Dès qu'il fut pensionnaire chez nous, c'est-à-dire dès les premiers jours de décembre, l'école cessa d'être désertée le soir après 4 heures. Malgré le froid de la porte battante, les cris des balayeurs et leurs seaux d'eau, il y avait toujours, après le cours dans la classe, une 20aine de grands élèves, tant de la campagne que du bourg, serrés autour de Maulne. Et c'était de longues discussions, des disputes interminables, au milieu desquelles je me glissais avec inquiétude et plaisir. Maulne ne disait rien, mais c'était pour lui qu'à chaque instant, l'un des plus bavards s'avançait au milieu du groupe, et prenant à témoin tour à tour chacun de ses compagnons, qui l'approuvait bruyamment, racontait quelques longues histoires de maraude que tous les autres suivaient, le bec ouvert, en riant silencieusement. Assis sur un pupitre en balançant les jambes, Maulne réfléchissait. Au bon moment, il riait aussi, mais doucement, comme s'il eût réservé ses éclats de rire pour quelque meilleure histoire, connue de lui seul. Puis, à la nuit tombante, lorsque la lueur des carreaux de la classe n'éclairait plus le groupe confus des jeunes gens, Maulne se levait soudain et, traversant le cercle pressé, « Allons, en route » criait-il. Alors tous le suivaient et l'on entendait leurs cris jusqu'à la nuit noire dans le haut du bourg. Il m'arrivait maintenant de les accompagner. Avec Maulne, j'allais à la porte des écuries des faubourgs à l'heure où l'on trait les vaches. Nous entrions dans les boutiques et du fond de l'obscurité, entre 2 craquements de son métier, le tisserand disait « Voilà les étudiants !» Généralement, à l'heure du dîner, nous nous trouvions tout près du cours chez Desnoux, le charron qui était aussi maréchal. Sa boutique était une ancienne auberge avec de grandes portes à 2 battants qu'on laissait ouvertes. De la rue, on entendait grincer le soufflet de la forge et l'on apercevait à la lueur du brasier, dans ce lieu obscur et tintant, parfois des gens de campagne qui avaient arrêté leur voiture pour causer un instant, parfois un écolier comme nous, adossé à une porte qui regardait sans rien dire. Et c'est là que tout commença, environ 8 jours avant Noël. Chapitre 3. Je fréquentais la boutique d'un vannier. La pluie était tombée tout le jour pour ne cesser qu'au soir. La journée avait été mortellement ennuyeuse. Aux récréations, personne ne sortait. Et l'on entendait mon père, M. Sorel, crier à chaque minute dans la classe « Ne sabotez donc pas comme ça, les gamins !» Après la dernière récréation de la journée, ou comme nous disions après le dernier quart d'heure, M. Sorel, qui depuis un instant marchait de long en large pensivement, s'arrêta, frappa un grand coup de règle sur la table pour faire cesser le bourdonnement confus des fins de classe où l'on s'ennuie, et dans le silence attentif demanda « Qui est-ce qui ira demain en voiture à la gare avec François pour chercher M. et Mme Charpentier ?» C'étaient mes grands-parents. Grand-père Charpentier, l'homme au grand burnous de laine grise, le vieux garde forestier en retraite, avec son bonnet de poil de lapin qu'il appelait son képi. Les petits gamins le connaissaient bien. Les matins, pour se débarbouiller, il tirait un seau d'eau dans lequel il barbotait, à la façon des vieux soldats, en se frottant vaguement la barbiche. Un cercle d'enfants, les mains derrière le dos, l'observait avec une curiosité respectueuse. Et il connaissait aussi grand-mère Charpentier, la petite paysanne avec sa capote tricotée, parce que Milly l'amenait au moins une fois dans la classe des plus petits. Tous les ans, nous allions les chercher quelques jours avant Noël à la gare, au train de 4h20. Ils avaient pour nous voir traverser tout le département, chargés de ballots de châtaignes et victuailles pour Noël enveloppés dans des serviettes. Dès qu'ils avaient passé tous les deux emmitouflés, souriants et un peu interdits le seuil de la maison, nous fermions sur eux toutes les portes et c'était une grande semaine de plaisir qui commençait. Il fallait, pour conduire avec moi la voiture qui devait les ramener, il fallait quelqu'un de sérieux qui ne nous versât pas dans un fossé et d'assez débonnaire aussi, car le grand-père Charpentier jurait facilement et la grand-mère était un peu bavarde. À la question de M. Sorel, une dizaine de voix répondirent criant ensemble « Le grand Maulne, le grand Maulne !» Mais M. Sorel fit semblant de ne pas entendre. Alors ils crièrent « Fromentin !» D'autres « Jasmin Delouche !» Le plus jeune des rois qui allait au champ monté sur sa truie lancée au triple galop criait « Moi, moi !» d'une voix perçante. Du Tremblay et Moucheboeuf se contentaient de lever timidement la main. J'aurais voulu que ce fût Maulne. Ce petit voyage en voiture à Anne serait devenu un événement plus important. Il le désirait aussi, mais il affectait de se taire dédaigneusement. Tous les grands élèves s'étaient assis comme lui sur la table, à revers, les pieds sur le banc, ainsi que nous faisions dans les moments de grand répit et de réjouissance. Coffin, sa blouse relevée et roulée autour de la ceinture, embrassait la colonne de fer qui soutenait la poutre de la classe et commençait de grimper en signe d'allégresse. Mais M. Sorel refroidit tout le monde en disant « Allons, ce sera Moucheboeuf !» Et chacun regagna sa place en silence. À 4h, dans la grande cour glacée ravinée par la pluie, je me trouvais seul avec Maulne. Tous deux, sans rien dire, nous regardions le bourg luisant que séchait la bourrasque. Bientôt, le petit coffin en capuchon, un morceau de pain à la main, sortit de chez lui et, rasant les murs, se présenta en sifflant à la porte du charron. Maulne ouvrit le portail, le héla, et tous les trois, un instant après, nous étions installés au fond de la boutique rouge et chaude, brusquement traversée par de glaciales coups de vent. Coffin et moi, assis auprès de la forge, nos pieds boueux dans les copeaux blancs, Maulne, les mains aux poches, silencieux, adossé au battant de la porte d'entrée. De temps à autre, dans la rue, passait une dame du village, la tête baissée à cause du vent, qui revenait de chez le boucher, et nous levions le nez pour regarder qui c'était. Personne ne disait rien. Le maréchal et son ouvrier, l'un soufflant la forge, l'autre battant le fer, jetaient sur le mur de grandes ombres brusques. Je me rappelle ce soir-là comme un des grands soirs de mon adolescence. C'était en moi un mélange de plaisir et d'anxiété. Je craignais que mon compagnon ne m'enlevât cette pauvre joie d'aller à la gare en voiture, et pourtant j'attendais de lui, sans oser me l'avouer, quelque entreprise extraordinaire qui vint tout bouleverser. De temps à autre, le travail paisible et régulier de la boutique s'interrompait pour un instant. Le maréchal laissait à petits coups pesants et clairs retomber son marteau sur l'enclume. Il regardait, en l'approchant de son tablier de cuir, le morceau de fer qu'il avait travaillé. Et redressant la tête, il nous disait, histoire de souffler un peu, « Eh bien, ça va la jeunesse ?» L'ouvrier restait la main en l'air à la chaîne du soufflet, mettait son poing gauche sur la hanche et nous regardait en riant. Puis le travail sourd et bruyant reprenait. Durant une de ces pauses, on aperçut par la porte battante Milly dans le grand vent, serrée dans un fichu qui passait chargé de petits paquets. Le maréchal demanda « Sait-il que M. Charpentier va bientôt venir ?»« Demain, répondis-je, avec ma grand-mère. J'irai les chercher en voiture au train de 4h20. »« Dans la voiture à Fromentin, peut-être ?» Je répondis bien vite « Non, dans celle du père Martin. »« Oh, alors vous n'êtes pas revenu ?» Et tous les deux, son ouvrier et lui, se prirent à rire. L'ouvrier fit remarquer lentement pour dire quelque chose. Avec la jument de Fromentin, on aurait pu aller les chercher à Vierzon. Il y a une heure d'arrêt, c'est à 15 kilomètres. On aurait été de retour avant même que l'âne à Martin fût attelé. Ça, dit l'autre, c'est une jument qui marche. Et je crois bien que Fromentin la prêterait facilement. La conversation finit là. De nouveau, la boutique fut un endroit plein d'étincelles et de bruit, où chacun ne pensa que pour soi. Mais lorsque l'heure fut venue de partir, et que je me levai pour faire signe au grand Maulne, il ne m'aperçut pas d'abord. Adossé à la porte et la tête penchée, il semblait profondément absorbé par ce qui venait d'être dit. En le voyant ainsi, perdu dans ses réflexions, regardant comme à travers des lieux de brouillard ces gens paisibles qui travaillaient, je pensais soudain à cette image de Robinson Crusoé, où l'on voit l'adolescent anglais, avant son grand départ, fréquentant la boutique d'un vannier. Et j'y ai souvent repensé depuis. C'était Le Grand Maulne d'Alain Fournier, paru en 1913 et bien sûr toujours disponible en édition de poche. Cette émission était comme toujours réalisée brillamment par l'excellent Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre comme interlude musical une ronde champêtre de Chabrier, interprétée par Alexandre Tarot. Et quant à moi, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle lecture à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.